des chaises ou des bancs, je sais pas. Alina, peut-être un banc de plus. Non, il m'a dit de démarrer.
Ah oui, d'accord.
Il m'a dit de démarrer.
Venez ici.
Approchez-vous parce que je parle pas fort. Vous n'entendrez pas là-bas. Alors, d'habitude, on parle de l'icône qui est à peu près dans le temps liturgique. Ça veut dire quand on a l'icône. On prend l'icône du temps de la fête liturgique qui correspond à peu près au moment où on est. Mais aujourd'hui, volontairement, avec l'accord de Père Roger, j'ai choisi la transfiguration parce que la transfiguration, la fête de la transfiguration, c'est le 6 août. Que le 6 août, on est tous ailleurs et que c'est quand même une des 12 fêtes principales et que, à mon sens, elle s'inscrit tout à fait dans la lignée de la fête après Pentecôte. Voilà, donc voilà pourquoi il faut aujourd'hui la transfiguration. Et puis que de toute façon, le but c'est d'arriver à parler des 12 fêtes quand même. Et voilà, celle-ci aujourd'hui. Alors, on est tous français, on n'a pas besoin de traduction aujourd'hui. Non. Donc c'est une icône essentielle. Je vais le tenir comme ça, mais oui. Par contre, sur le côté, vous ne voyez pas, vous n'avez besoin.
Oui.
Pardon ?
Devant de qui tu es ?
Moi, je suis Marie-Christine.
Iconographe. Iconographe. Ça s'appelle iconographe.
J'essaye d'être théologienne. Donc, cette icône atteste de la résurrection du Christ. C'est sa transfiguration. Et c'est notre manière iconographique d'attester de la lumière divine. Et par là même, on va reprendre tous les principes essentiel de l'iconographie, puisque l'iconographie, elle parle de cette lumière incréée, de ce monde transfiguré. Donc la transfiguration, elle est vraiment l'icône qui manifeste cette lumière. Elle atteste que la lumière que les apôtres ont vue émaner de Jésus sur le mont Tabor, puisque la transfiguration se passe sur le mont Tabor, est bien incréée. Quel est le rayonnement des énergies divines? Quelle est la gloire de Dieu? Alors là aussi, si vous vous souvenez, quand on avait parlé de l'ascension, on avait parlé de verticalité. Mais là aussi, il y a un aspect vertical très fort avec le Christ, Moïse et Élie de chaque côté. Et puis l'aspect horizontal, humain, qui est représenté dans l'icône, avec les trois apôtres en dessous. Les trois apôtres en dessous n'ont pas les auréoles volontairement, parce qu'ils ne sont pas encore dans le monde transfiguré. Sur cette icône, en tout cas, c'est le sens. Par contre, Moïse et Élie, eux, qui sont antérieurs historiquement, ils sont là, ils apparaissent au moment de la transfiguration. Dieu est lumière, dit saint Jean. Voir cette lumière, c'est rencontrer Dieu et le connaître alors qu'il se communique à sa créature en pénétrant dans son cœur préparé par la prière et la sève. Donc on a là vraiment une profession de foi très forte, très imagée. Voilà. Il y a Saint Séraphin de Sarov, qui est un contemporain, disons du siècle passé, qui a, lui, vécu une transfiguration devant son disciple Motilov. Et il est bien dit, et là je vais essayer de vous le lire aussi, parce que c'est très important que... Si Motilov a vu la lumière incréée en Saint Séraphin de Sarov, c'est parce qu'il avait la capacité de la voir et de la recevoir. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Jésus n'a pas choisi n'importe quels apôtres pour venir, ce sont les plus proches, ce sont ceux à qui il a donné des sacerdoces très particuliers. Donc en bas, nous avons Saint Jean, Saint Jacques, enfin, je ne sais plus dans quel sens, oui, Pierre, Jean et Jacques. Hein, ce sont des disciples qui ont un rôle très très important dans l'Église. Pierre notamment, Jean qui va être donc Jean le théologien, et puis Jacques qui est son frère, qui est lui aussi témoin de quelque chose de très fort, qui est un des premiers disciples. Donc pour revenir à ça, si on reprend tous les tropères de cette fête, il est bien dit que on va supporter, on va recevoir cette lumière autant qu'on va pouvoir la supporter. Et c'est chacun, c'est propre à chacun, cette capacité à recevoir cette lumière divine. Et il est bien expliqué aussi que c'est dans notre foi, dans notre cœur, dans cette recherche de cette lumière divine, dans notre Eucharistie, dans notre manière dont on va communier au Christ, au sang du Christ, qu'on va tout doucement préparer notre corps humain à recevoir cette lumière divine. Donc cette icône, elle représente et elle montre tout ce processus qui arrive ici à son apogée. Bon, alors il y a cette icône, qui est donc une icône de l'école de Novgorod, russe, mais il y en a d'autres que je vais vous donner comme d'habitude à faire circuler. Et il y en a une en particulier, c'est le même genre, mais ici il y a les trois avec le Christ qui montent au mont Tabor, et ici ils redescendent. Elle n'est pas, c'est pas souvent, il n'y en a pas beaucoup d'icônes comme ça, mais je vous la fais circuler parce que c'est intéressant. Si vous posez la question, voilà, on revient toujours à cette histoire d'intemporalité de l'icône, c'est-à-dire qu'en même temps il y a la transfiguration, en même temps ils montent et en même temps ils redescendent. Hein, on est complètement hors du temps, dans une fraction très particulière du temps. Voilà d'autres icônes, donc de plusieurs écoles. Vous pouvez les faire circuler. Donc celle-ci, c'est la copie de celle-là. Il y en a une aussi qui est très belle au niveau lumière, c'est celle de Théophane, où il y a vraiment, vraiment quelque chose de très fort au niveau de la lumière, plus fort que ça d'ailleurs. Donc la lumière est symbolisée par les rayons. Le Christ est toujours blanc, lumineux. Vous pouvez faire circuler aussi. Alors, ce matin, tout à l'heure, Père Roger a parlé du baptême. Et après, c'est vrai qu'une fois qu'on a reçu le baptême, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir systématiquement le salut. C'est cette quête de cette lumière qui fait qu'on va aller vers ce salut. Ça veut dire aussi participer à la gloire divine. Le Seigneur, là, nous a montré sa gloire et nous a montré... qu'est-ce que ça veut dire participer à la lumière divine? Nous avons vu la lumière véritable, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi en adorant la Trinité indivisible, car c'est elle qui nous a sauvés. Bon, ça se trouve dans tous les chants des tropères. Alors, Motilov, j'en ai parlé. Les apôtres, j'en ai parlé. Bon, alors après, dans les détails. Donc, cette transfiguration, c'est une communion transformante. Il faut bien associer ce sens que la lumière descend en nous, dans notre humanité, et c'est elle qui nous transforme, qui nous transfigure pour laisser de plus en plus paraître cette lumière divine qui est incréée. C'est pas notre volonté, on ne se met pas un projecteur pour être lumineux. C'est vraiment au fur et à mesure de ce chemin vers le Seigneur. Effectivement, l'Eucharistie est très importante, pas au quotidien, puisque à chaque fois qu'on peut communier, c'est avancer vers ce chemin de lumière et recevoir cette lumière incréée et participer à la gloire de Dieu. Alors on retrouve la notion de croix aussi, puisqu'il y a une notion de verticalité et d'horizontalité. La croix, eh bien, c'est le passage obligatoire, l'amour crucifié, aller vers le Christ, ça demande des fois humainement des choses difficiles à vivre. Et c'est ça notre croix, donc il est bien dit, porte, si tu, je ne sais pas si je vais retrouver ici le texte, mais porter sa croix, où est-ce qu'elle est la phrase? Je vais pourtant noter parce qu'elle est toute importante. La croix, cas, si on veut rejoindre le Christ, c'est porter sa croix et donc accéder à cet amour de Dieu qui est un autre amour que l'amour divin. Alors, la verticalité. Donc, le Christ, quand il est comme ça, très souvent, il bénit. Donc, il bénit toujours avec sa main droite. Et ensuite, à gauche, il a toujours le rouleau de la parole. Il symbolise la parole. Ici, il y a Moïse. Et ici, Élie, qui apparaissent au moment de la transfiguration. Et aussitôt que la transfiguration est finie, on va dire, hop, ils redisparaissent. Il ne reste plus que le Christ et les trois apôtres, et on le voit sur l'icône, ils redescendent de la montagne. Alors, c'est un peu un mystère, parce qu'il n'y a aucun texte, je n'ai pas trouvé de texte, qui explique pourquoi Moïse et Élie apparaissent. Je ne connais pas d'explication, je ne sais pas. J'ai pas trouvé de texte. Peut-être un jour je vais en trouver, mais en tout cas pour le moment, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé. On sait que ce sont les prophètes.
Je peux rajouter que
oui?
Moïse n'a pas de tombeau. Moïse, on ne sait pas où il est enterré.
Oui.
Il est monté au ciel.
Et voilà,
dans un char
les deux.
Céleste.
Tout à fait.
Donc il n'y a pas de tombeau ni pour l'un.
Ni pour l'un ni pour l'autre. Merci de cette. Mais bon, voilà, on peut dire ça. C'est sûr que les deux, un est enlevé au ciel, l'autre, il n'a pas de tombeau. Eh bien, ça ne donne pas pourquoi ces deux-là. On ne sait pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a que je voulais vous dire? Donc, on a parlé de cette verticalité. Il descend, cette rencontre, cette réunion entre le divin et l'humain. Il y a toujours cette notion de rencontre. On l'avait déjà évoqué dans l'ascension. Et là, on l'évoque d'une autre manière. Il faut savoir aussi que la transfiguration ne peut arriver qu'après la Pentecôte. Il y a la croix, l'ascension au ciel, bon, c'est une chose, et puis après la Pentecôte, à la descente de l'Esprit-Saint, c'est parce que l'Esprit-Saint est descendu qu'il y a la possibilité de rencontrer la transfiguration.
Pour le peuple juif,
oui,
l'Esprit-Saint, ils ont reçu après le don des 10 commandements. Ils n'ont pas eu cette spiritualité avant, ça n'existe pas. Ça fait qu'après Pentecôte,
c'est Moïse. Pentecôte. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est Moïse qui a reçu les tables de la loi, donc c'est peut-être une raison pour laquelle il est là. Parce que lui, il a reçu les tables de la loi, et là, de nouveau, lui, quand il reçoit les tables de la loi, il ne voit pas le Seigneur, il l'entend. Et là, il le voit.
On parle de la sainteté du peuple juif qu'après les 10 commandements.
Alors, le vêtement blanc, je l'ai dit. Moïse et Élie, le nain, bon, ça on a parlé, les auréoles, la mandorle, qui signifie le monde incréé aussi. Les faisceaux lumineux, la montagne, donc la montagne est toujours symboliquement aussi là où on va monter, s'élever pour rencontrer Dieu. Hein. Tout ce qui est montagne sur les icônes va toujours symboliser cette ascension vers le Seigneur, aller à la rencontre de cette lumière. Hein, c'est notre partie humaine qui s'élève pour aller rencontrer cette lumière. Donc là aussi, c'est la partie de la montagne. La croix, mais on évoque toujours ce mouvement de descente et de montée. Hein, c'est aussi ce mouvement avec notre humanité, notre divinité, ce mouvement comme ça, et qui fait qu'aussi il y a la croix. Bon, la fin. Bon, le prophète Moïse et Élie. Alors voilà, ce qui est dit ici, c'est que par rapport à Moïse et Élie, tous deux ont été les témoins d'une théophanie sur la montagne du Sinaï. Ils ont vu la théophanie, donc ça peut être aussi pour ça qu'ils sont choisis, mais on ne parle pas de ce choix, de représentation en tout cas. Donc après on a dit qu'Élie est monté aux cieux, donc Moïse et Élie représentent la loi, tous les deux. Et là, ils disent aussi, Élie aussi. Donc, ils se présentent comme des serviteurs, ils sont légèrement inclinés, ils servent le Seigneur. Dans toutes les icônes, ils sont tous les deux inclinés de chaque côté du Christ.
Élie, il a la notion de guérison.
Pardon?
Le prophète Élie, il avait le pouvoir de guérison.
Voilà. Voilà, alors ça j'ai dit aussi. Pourquoi ils n'ont pas d'auréole? Parce que c'est quand même les apôtres. Quand ils sont sur la Pentecôte, ils ont les auréoles. Mais sur cette icône, ils montrent encore le monde terrestre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'auréole à ce moment-là. Donc les trois apôtres, je l'ai dit, Pierre, Jean et Jacques. Alors j'ai trouvé aussi ici, chez Ouspensky, quelque chose d'intéressant. Je viens de le dire, donc c'est par la grâce de l'Esprit-Saint que c'est la grâce de l'Esprit-Saint qui suscite la sainteté, tant de la personne représentée que de son icône. Donc là, on rentre un peu sur une généralité de la relation à l'icône. Donc c'est parce qu'on va rentrer dans cette relation qu'on va recevoir cette lumière de ce saint qu'on va prier et que de nouveau, et à notre tour, on va être éclairé. C'est ce mouvement aussi de lumière entre la personne représentée et notre ouverture et notre recherche de lumière qui va faire qu'on va élaborer cette lumière et cette participation au monde incréé. L'icône participe, pour ainsi dire, à la sainteté de son prototype et par l'icône, nous participons à notre tour à cette sainteté dans notre prière. Voilà, c'est une notion que je trouve très belle. C'est un livre d'Ouspensky qui est un peu ardu, bon, mais bon. Ouspensky, c'est un grand iconographe du début du siècle dernier. Russe.
Diaspora russe.
Voilà, oui, qui est arrivé en Europe au début du siècle passé et qui a beaucoup, beaucoup parlé de l'iconographie, qui a été un très grand iconographe, qui a lancé tout le mouvement iconographe de l'Europe en fait.
Je peux penser à autre chose. En hébreu, Élie, c'est le salut de Dieu.
Élie, oui. Merci. Je sais. Et c'est bien de parce que comme ça participe. Hein, chacun est amené à témoigner et à participer de ce qu'il vit à travers une icône, à travers ses échanges. Donc, merci, Malka. Je crois que c'était tout ce que j'avais relevé qui était important. Ce mouvement, toujours, ce mouvement de rencontre. Bon, si vous avez des questions, c'est le moment. Pas de questions ?
Est-ce que tu peux détailler la mandorle ?
Je peux détailler la mandorle ?
Des traits de lumière et une partie au centre qui est noire.
La partie au centre qui est noire, et noire veut dire que c'est la lumière incréée, mais dans sa non-manifestation, si j'ose dire. C'est un peu... Mais c'est ça. Oui, voilà, c'est une antimatière. Et après, progressivement, elle se manifeste, elle devient lumière. Voilà. Mais très souvent, effectivement, la mandorle, ici, qui est ou ronde ou ovale, autour du Christ, au milieu, elle va être sombre. Noire, ou une couleur qui est l'anti-manifestation.
C'est lui la lumière.
Oui, c'était... Ça me représente pour moi l'anti-lumière. Comme un trou noir, en fait, qui cache
rien.
Tout ce qu'il y a dedans.
Il n'y a rien.
C'est l'incréé.
C'est la lumière incréée, mais...
Non manifestée.
Comme tu as dit,
non manifestée.
Pour l'homme.
Oui, mais il faut qu'il se manifeste.
Ah, voilà.
Et donc là, voilà.
Et ça se manifeste.
Voilà, ça rentre dans la manifestation.
Manifester, c'est vraiment le bon.
Oui.
Oui, mais c'est pas facile hein. Puisque là on parle de lumière incréée et là on parle d'obscurité non manifestée. Encore une autre notion.
Si je regarde avec un œil de l'enfant, on dirait l'œil du monde.
Oui, ça peut. Beaucoup de gens disent que c'est un œil et qu'au milieu c'est la pupille. Notre pupille, elle est noire. Et tout rentre par la pupille, toute la lumière. Incréé et créé.
Eh oui.
Bon, là, on fait des métaphores.
Ou l'œil de poisson, ça se ferme jamais.
L'œil
de poisson ne ferme jamais. Ouais. Comme l'œil de. C'est toujours en train de regarder.
Ouais.
C'est toujours.
Toujours,
ouais.
Oui, c'est l'œil du monde.
L'œil du monde. Des questions ou des interrogations ou des choses que j'ai pas bien dites? Demande à répondre ici. J'essaie de rester simple.
Oui.
De toute façon, je ne saurais pas faire compliqué. J'avais préparé en suivant aussi sur l'iconostase, j'en avais un petit peu parlé. Est-ce que vous avez bien compris, tout le monde, qu'est-ce que c'est l'iconostase?
Tu peux la redire peut-être.
Je peux en reparler? Hein, donc, ouais, l'iconostase, oui. C'est ce mur qui pourrait, on pourrait croire humainement que c'est un mur de séparation. Ce n'est pas un mur de séparation, c'est un mur d'intercession. Et sur ce mur, qu'on appelle l'iconostase, il y a toutes les représentations de ces saints ou de ces fêtes qui vont intercéder, qui vont prendre nos prières et les transporter dans le cœur, dans le sein de l'autre côté. Donc c'est ça une iconostase. Donc sur les iconostases, en bas ici, au milieu, il y a les portes royales. Sur les portes royales, il y a l'Annonciation. Marie qui dit oui, parce que si elle ne dit pas oui, rien n'est possible. De chaque côté, il y a la Mère de Dieu et le Christ, toujours dans cet ordre-là. Et ensuite, bon, là, c'est le choix, mais en général, après, il y a des anges ou des saints qui sont liés à l'Église, au lieu. Mm-hmm. Au-dessus, il y a, quand on l'aura, il y a les 12 fêtes, ou les 14,
oui,
ou les 15, parce qu'il y en a 12 principales, plus une qui est la résurrection, ça fait 13. Et puis en plus ici, il y a la 14e qui est l'icône de la paroisse ici, qui est la protection de la Mère de Dieu. Donc ces icônes sont sur la première rangée au-dessus des portes royales. Dans les portes, donc il y a la porte royale ici, à droite il y a la porte du diacre, le diacre rentre par ce côté, et de ce côté la porte de la prothèse, je parle que vous entendez, excusez-moi. De ce côté, la porte de la prothèse, parce que c'est là où on prépare le pain et l'Eucharistie. Et là, c'est la porte du diacre. Donc, les deux portes de chaque côté sont souvent avec des diacres ou des saints qui ont qui sont liés avec le Saint Jean Chrysostome, enfin, tous les grands théologiens. Et au-dessus, il y a d'abord les prophètes, et puis au-dessus encore, des fois, il y a les patriarches. Voilà. On parlait aussi que
au fond,
dans l'abside, ici, au milieu, là où il y a ces angelots et cette vierge, il y a la Mère de Dieu qui est orante, très souvent.
Orante.
Comme ça, orante, oui, avec le Christ. Voilà. Hein. Elle tient l'Emmanuel. Et de chaque côté, il y a aussi des saints qui sont liés à la dédicace de l'Église. Ou en tout cas les liens que l'Église entretient avec certains théologiens ou saints, voilà. D'accord. Et en haut, c'est le Christ Pantocrator. Et dans le fond de l'Église, c'est la Dormition.
Ah oui, d'accord.
Tout, voilà. C'est la fin du cycle. La porte ouvre, Marie dit oui, et puis à la fin. D'ailleurs, l'année liturgique, elle commence toujours après la Dormition. Donc voilà, la fin du cycle, c'est là. Au fond de l'église, il y a la Dormition. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais encore vous dire? Je ne sais pas, il faut me poser des questions parce que c'est tellement. Nicole Emmanuel, tu n'as rien à demander?
Mais si j'avais une question, la une icône, là, dont on voit, est-ce qu'elle a une place privilégiée ou non? C'est. Ah, maintenant, je vais pouvoir le dire. Hein. Le déjeuner d'Abraham avait les. Celle que fait
la Sainte Trinité.
Si, elle est là.
Oui, mais dans les iconostases.
Non. La Trinité ne fait pas partie des 12 fêtes.
Voilà, elle ne fait pas partie.
C'est pas une
fête. Avec toute la description que tu viens de faire, où est-ce qu'on la place?
Alors, on peut la placer, attends que je te dise pas des bêtises. Elle est tout à fait en haut. Elle est au-dessus des patriarches, c'est-à-dire normalement, au-dessus, quand tu regardes, tu peux avoir les portes royales, le Christ en gloire, au-dessus. La crucifixion, elle est au milieu des fêtes, dans l'axe ici. Et puis au-dessus, tu as de nouveau la Vierge orante, si tu ne l'as pas au fond. Et ce n'est qu'au-dessus qu'on a la Sainte Trinité ou l'hospitalité d'Abraham qu'on appelle, puisque la Sainte Trinité de Roublet.
Si tu la prends, ça va tomber. Oui, ça va tomber.
Qui représente cette iconographie complètement en haut, puisque là on est avec les patriarches. Pas de questions ? Qui chante le tropère.
Le tropère de quoi?
Eh bien, au Christ, tu t'en souviens, toi?
Non,
c'est pas le bonheur. Au Christ, tu t'es transfiguré.
Ah non, il n'y a que peur.
Mais c'est sur le tombe.